Continuons ce matin notre parcours
du deuxième livre de la Bible, l'Exode.
On a déjà été un peu introduit à cette question,
la présence de Dieu, Jésus dans la barque. C'était quelques-uns des textes qui nous ont été proposés dans la première partie. Et c'est le fil conducteur que nous suivons pour justement méditer ce deuxième livre de la Bible, le Dieu qui veut demeurer avec nous. Et je vous invite à ne pas passer trop vite sur cette affirmation qui est là sous vos yeux, le Dieu qui veut demeurer avec nous. Est-ce que c'est bien dans cette optique que nous sommes venus apporter notre adoration ce matin? On a peut-être plutôt l'impression que c'est nous qui avons pris du temps à part pour venir apporter, venir dans la présence de Dieu. Ou alors peut-être qu'on est actuellement dans une phase où on cherche, on se pose la question, qu'est-ce que ça changerait si Dieu était dans ma vie? La Bible affirme quelque chose qui va dans l'autre sens. En réalité, ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. Depuis que l'homme est homme, depuis que l'humanité existe, Dieu nous cherche. Depuis que le monde est déchu, depuis que la chute est survenue dans ce monde, le cri de Dieu continue. Où es-tu, Adam? Dieu veut demeurer avec nous. Et c'est cette formidable affirmation que nous méditons, et on le médite à travers donc ce livre de l'Exode qui nous a confrontés à quelques-uns des passages les plus extraordinaires, hein, quand on pense à la Bible, à traverser de la mer Rouge, à les 10 plaies, le don de la loi sur la montagne. Alors le passage de ce matin sera un peu moins emblématique, mais voilà, on a tous ces passages qui, en tête, qui nous ont permis d'approfondir cette idée du Dieu qui veut demeurer avec nous. Alors comme le passage de ce matin est un peu moins fun, je propose un petit teaser, une petite question piège pour démarrer, pour vous réveiller, hein, pas pour vous piéger. Quel est le premier don spirituel que l'on rencontre dans la Bible? Alors j'entends par don spirituel cette manifestation, cette aptitude donnée par l'Esprit afin d'édifier le peuple pour l'utilité commune. Quel est le premier don spirituel? Alors, est-ce que c'est la guitare, là, Elisabeth? La louange. Est-ce qu'on aurait sans doute en tête la prophétie, l'enseignement, sans doute les dons qui nous viennent, le fait de conduire la louange? La révélation. La révélation, on a probablement ce type de... Je triche un peu, hein, dans ma réponse, mais... Les couturiers. Mais Virginie, tu es incroyable. C'est pas que les couturiers, les artisans, les manuels. Le premier endroit où l'on rencontre des personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit pour édifier le peuple de Dieu, ce sont les artisans d'Exode 31, équipés par le Saint-Esprit pour construire les objets que nous allons méditer ce matin dans le tabernacle. Et une de ces personnes, c'est Betsaléel. Pas dans le top 10 des personnalités bibliques qu'on a en tête, hein. Et donc on va faire connaissance avec ce passage et avec ce Betsaléel en particulier. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Exode 31. On va méditer sur cette réflexion, le Dieu qui demande à être servi comme il le dit, comme sa parole le dit. Le Dieu qui demande à être servi comme il le dit. Je vous invite à prendre vos Bibles. Donc en Exode 31, le texte va être projeté sous vos yeux, mais toujours bien d'avoir aussi sa Bible juste à côté. Vous avez peut-être une autre version, comme ça vous pouvez aussi comparer un peu ce qui est là sous vos yeux. Alors justement, moi je vais la lire là devant parce que je n'ai pas la bonne version en main. Enfin, ce n'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est que ce n'est pas la même. Donc je vais lire ce qui est projeté là devant moi. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Vois, je désigne Betsaléel, fils d'Ouri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. Et de plus, j'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts,
afin qu'ils exécutent tout ce que je t'ai ordonné. L'attente de la rencontre, le coffre de l'acte de l'alliance, le propitiatoire qui doit lui servir de couvercle et tous les objets de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses accessoires, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, la cuve et son socle, les vêtements de cérémonie et les vêtements sacrés pour Aaron le prêtre, ainsi que ceux de ses fils, ceux qu'ils endosseront pour exercer les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum aromatique pour le sanctuaire. Les artisans se conformeront à tous les ordres que je t'ai donnés. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, « Et toi, dis ceci aux Israélites, surtout observez bien mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous de génération en génération, le signe que moi, l'Éternel, je vous rends saint. Vous observerez donc le jour du repos, car il est saint pour vous. Celui qui le profanera devra mourir, car quiconque fera un travail quelconque ce jour-là sera retranché de son peuple. On travaillera 6 jours, et le 7e jour sera un jour de repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail le jour du sabbat devra mourir. Les Israélites observeront le jour du sabbat en le célébrant de génération en génération. C'est une alliance éternelle. Il sera un signe à perpétuité entre moi et les Israélites. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il a cessé de travailler pour reprendre son souffle. Quand il eut terminé de s'entretenir avec Moïse sur le mont Sinaï, l'Éternel lui remit les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. C'étaient des tablettes de pierre gravées par le doigt de Dieu. Jusque-là, la lecture de la parole ce matin. Ce texte d'Exode 31 a reçu un écho particulier chez moi ces derniers temps. Ceux qui me connaissent savent que quand il s'agit de travaux manuels, quand il s'agit d'entreprendre des travaux, ça ne provoque pas un très grand enthousiasme chez moi. Pas que je trouve ça pas important, c'est plutôt le contraire en fait. Je suis toujours impressionné par les personnes qui savent travailler de leurs mains. J'ai eu la chance d'avoir un papa très doué avec ses mains et j'ai assez vite compris à ses côtés que je n'avais pas le même don. Manque de pratique, diront certains, et ils ont en partie raison, mais c'est quand même un domaine où je pars avec un certain complexe d'infériorité. Alors du coup, l'avantage, c'est que j'ai pas trop de mal à faire le lien entre le travail manuel et la spiritualité, parce que c'est un domaine où je me retrouve souvent à genoux en disant « Seigneur, aide-moi, parce que franchement, j'ai besoin de toi pour que ce papier peint tombe droit. » Et je suis souvent à genoux pendant les travaux, pas que pour faire du carrelage, parce que j'en fais assez peu souvent d'ailleurs. Et il se trouve que ce texte tombait à un moment où on s'était engagé avec Christelle à faire des travaux à la maison, là, pendant un mois, où tout mon temps libre passait dans ce stress de se dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il va falloir faire aujourd'hui ?» Et donc j'ai encore été plus émerveillé par ce don de l'esprit qu'avait Betsaleel et Oholiab pour accomplir tous ces merveilleux objets que Dieu leur avait confiés. Alors on va voir que ce matin, le texte n'est pas tant pour valoriser les personnes qui ont un don manuel, mais je profite de l'occasion est donnée pour vraiment vous encourager, vous, ce matin, qui avez plutôt ce don manuel. C'est vrai qu'il n'est pas mis en avant dans nos cultes le dimanche matin. Hein. On n'a pas des gens qui taillent les pierres là, sur l'estrade pour louer le Seigneur. Et ce n'est pas un don qu'on met particulièrement en avant. Mais pour nous qui avons vécu la construction de ce bâtiment, il suffit juste de s'arrêter quelques instants et de regarder encore à nouveau ces murs qui nous accueillent ce matin. Beaucoup des manuels de l'Église, ceux qui ont ce don de travailler avec leurs mains, ont construit, fabriqué ces placos, les ont peints, des objets sur cette scène. Alors, ce n'est pas forcément des gens de l'Église qui les ont fabriqués, mais certains les réparent quand ils sont cassés. Alors, un grand merci à eux. On est reconnaissant d'avoir tous ces dons dans l'Église. Et puis, vous pouvez penser aussi à ces soirées où on a des gens qui font des décors sur mesure avec justement ce talent des mains. Je ne vais pas citer de nom, vous reconnaîtrez, mais vraiment ce passage est l'occasion d'exprimer notre reconnaissance pour toutes ces personnes qui mettent ces capacités manuelles que Dieu a aussi données pour l'utilité commune, pour le service
de notre communauté.
Alors qu'en est-il de ce fantastique texte d'Exode 31 où Dieu remplit de son esprit des artisans? La première chose qu'il faut constater, c'est que ces artisans ont été capables, rendus capables, de fabriquer des objets qui avaient un but précis. En réalisant ces objets, le but c'était de servir Dieu, d'honorer Dieu, de faire sentir, saisir au peuple, comme on l'a un peu fait ce matin dans notre première partie, que Dieu était présent au milieu de lui. En fait, ces artisans avaient un rôle théologique. Les objets qu'ils fabriquaient avaient pour but de faire réaliser au peuple que le Dieu des cieux, le Dieu éternel, voulait habiter, demeurer parmi son peuple. De la bonne réalisation de leur ouvrage dépendait l'adoration du peuple. Un peu comme ce matin, de la bonne préparation des musiciens, de ceux qui prennent la parole, dépendent l'adoration que nous apportons à notre Dieu. Alors il vaut la peine de prendre le temps de s'arrêter quelques instants pour voir comment ces objets parlaient précisément de la présence de Dieu. Revenons 3500 ans en arrière et prenons le temps d'entrer dans ce lieu saint où ces objets sont là pour essayer de mieux saisir ce qu'ils ont à nous dire sur Dieu. Des objets qui honorent Dieu. Alors le premier d'entre eux, c'est cette tente Décathlon, qui a l'air un petit peu plus compliquée à mettre en place, en œuvre, que les tentes qui s'ouvrent toutes seules. Est-ce qu'elle est plus facile à replier? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette tente, peut-être elle nous étonne que Dieu ait demandé à son peuple de construire une tente pour accueillir tous ces objets qui allaient parler de lui. Mais c'est particulièrement émouvant. Pensez à ce peuple qui habitait sous des tentes. Et Dieu demande à son peuple de construire le même habitat qu'eux pour justement qu'ils prennent conscience qu'il était comme leurs voisins, qu'il était venu parmi eux. Après la révélation du mont Sinaï, effrayante, terrible, cette voix-là qui tonne de la montagne et où le peuple a dit « Stop !» Dieu dit « Je viens comme ton voisin, je viens habiter sous une tente parmi toi. » Ensuite, deuxième objet dont il est question dans notre texte, l'arche du témoignage et son couvercle, le propitiatoire. Ce coffre servait à accueillir les tablettes de la loi, signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et donc sur ces tablettes étaient écrites les exigences de Dieu vis-à-vis de son peuple. C'était aussi l'engagement du peuple pris à obéir à la loi de Dieu. Elle marquait l'alliance entre Dieu et son peuple. Ça pourrait être écrasant de penser qu'il y a là, à l'intérieur de ce coffre, les exigences de Dieu que, assez vite, le peuple s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à suivre. Et c'est là le rôle du propitiatoire, ce couvercle qui couvrait justement le coffre et qui avait pour but de rappeler que Dieu s'était engagé à se montrer propice, favorable vis-à-vis de son peuple, prêt à couvrir la faute de celui-ci quand il n'arriverait pas à respecter ses exigences. De manière transitoire dans l'Ancien Testament, à travers les sacrifices qui étaient offerts, et de manière définitive pour nous, aujourd'hui, par le don de Jésus-Christ, nous en sommes encore rappelés ce matin. Autre objet que nous trouvons dans ce lieu que Dieu a fait construire, la table avec les pains de proposition. Une table où on déposait justement 12 pains pour les 12 tribus, non pas pour offrir à manger à Dieu comme c'était dans le paganisme habituellement la tradition, mais une table qui rappelle justement que Dieu veut demeurer avec nous et qu'il veut qu'on s'asseye pour manger dans sa présence. C'est comme ça que les anciens ont été avec Moïse sur la montagne et ont été amenés à manger et à boire dans la présence de l'Éternel. Et cette table avait pour but de rappeler le désir que Dieu a, que nous prenions un repas dans sa présence. Et on en a encore eu la suite ce matin à travers le repas du Seigneur. Le chandelier. plusieurs tentatives d'explication autour de ce chandelier. En tout cas, on peut y voir probablement le signe du peuple lui-même. Le chandelier représente probablement le peuple de Dieu, et le fait qu'il y a la lumière en son sein, le peuple de Dieu éclairé par la présence de Dieu, comme si Dieu tenait parmi les nations ce chandelier pour apporter la lumière qu'il veut apporter à tous. Il y a aussi ces autels, l'autel des holocaustes, celui qui vous est désigné là, c'est l'autel des parfums, où on faisait brûler de l'encens en permanence pour qu'il y ait cette espèce de fumée qui vienne envahir le tabernacle et surtout qui vienne faire un espèce de voile supplémentaire devant le voile bleu qu'il y avait qui cachait le coffre de l'Alliance. Et ça devrait vous rappeler quelque chose, ce voile, cette fumée. C'est comme ça que Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï avec une épaisse brume qui recouvrait la montagne au moment où Dieu parlait à son peuple. En fait, cet autel des parfums, c'est un peu le premier objet pyrotechnique de l'histoire, comme pour reproduire, c'est Tim Chester qui le dit dans son commentaire, une machine à faire des nuages. On fait souvent ça pour notre fête de Noël, espèce de fumée là qui donne un effet un peu céleste. Mais c'est l'objectif probablement de faire brûler de l'encens en permanence, donner ce rappel de cette brume qui couvrait la montagne au moment où Dieu parlait, cette brume qui cachait justement le lieu où les tablettes de la loi étaient disposées. Et puis, on nous en a parlé aussi, ce n'était pas juste des manuels à construire des objets, ces artisans, mais ils avaient aussi ce talent de couturier pour fabriquer les habits, qui ont toute une symbolique, je ne prendrai pas le temps ce matin de la détailler, pour les prêtres qui allaient représenter le peuple devant Dieu. Un passage qui fait donc la part belle à ce travail manuel au sein même de l'exercice du culte. L'ouvrage des mains de ces artisans, les objets fabriqués, renvoyaient chacun leur manière à cette affirmation « Dieu est présent au milieu de son peuple ». En regardant ces objets, certes créés par des mains humaines, le peuple avait constamment cette affirmation « Dieu désire ardemment être présent au milieu de toi ». Mais il y a plus encore. La suite du texte donne une perspective encore plus grandiose à cette mission confiée aux artisans. Si vous avez votre Bible sous les yeux, vous pouvez voir que des versets 12 à 17, il est question du sabbat. Et on peut s'interroger, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi le quatrième commandement est-il rappelé ici? Pourquoi uniquement le quatrième commandement d'ailleurs? Je vous propose deux remarques sur ces versets qui, j'espère, nous aident encore à mieux saisir justement la manière dont Dieu veut être honoré dans ce chapitre 31 du livre de l'Exode. Tout d'abord, ce jour, c'est le texte qui nous le dit, est un jour qui fait du peuple de Dieu un peuple saint. Les objets devaient donc rappeler quotidiennement la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais ce jour de sabbat, de repos, était ce qui différenciait le peuple juif des autres peuples. Il était le signe de l'alliance entre ce peuple et son Dieu. Vous vous rappelez, dans la Bible, il y a différents signes qui sont donnés à chaque fois pour formaliser l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Il y a l'arc-en-ciel avec Noé, il y a la circoncision avec Abraham. Et donc le signe, là, de cette nouvelle alliance, l'alliance de la loi, c'est le jour du sabbat, nous dit ce passage. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, le signe signifie quelque chose de concret par rapport à ce qu'il veut marquer dans l'alliance. Par exemple, l'arc-en-ciel, eh bien, c'est cet élément naturel que nous pouvons observer qui nous rappelle que Dieu s'est engagé à ne plus faire tomber le déluge pour venir punir le péché. La circoncision, c'est cette marque qu'il y a sur le corps des membres du peuple de Dieu pour se rappeler des promesses que Dieu s'est engagé vis-à-vis de son peuple, des marques qui sont sur le corps même de son peuple. Et là, un peuple pendant 400 ans esclave en Égypte, Dieu donne comme signe d'alliance quelque chose qui a un rapport avec quoi? son activité. Ce peuple était pendant 400 ans esclave de son activité, soumis à devoir travailler jour après jour dans une situation servile d'un pharaon qui commandait et qui disait ce qu'il devait faire. Et là, on a un progrès social tout à fait extraordinaire. C'est le seul peuple de l'Antiquité qui va respecter ce jour de pause dans son ouvrage pour se rappeler qu'il est plus que ce que font ses mains. Que son cœur d'adorateur ne dépend pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est, membre du peuple que Dieu a libéré de l'esclavage en Égypte. Le sabbat permettait cela, de s'arrêter dans sa tâche et de devenir un adorateur de l'être et non de l'action. C'est quand même incroyable hein, pour des gens qui ont été esclaves pendant toute une période d'être tout d'un coup au bénéfice d'une libération, d'une grâce, notamment de par rapport à leur propre activité. Et c'est certainement là-dessus que nous sommes appelés à réfléchir quand nous nous demandons comment nous devrions appliquer le sabbat dans notre propre contexte, mais je laisse ça pour les groupes de maison qui y reviendront dans une prochaine étude. La deuxième remarque, c'est qu'en fait, il y a dans ce passage en particulier, mais dans tout le livre de l'Exode, une œuvre de recréation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve en six jours. Et le septième jour, il s'est reposé de ses œuvres. C'est le livre de la Genèse qui nous le dit. Au commencement, l'homme et la femme vivaient en parfaite communion avec Dieu. Dieu était présent dans le jardin. L'homme et Dieu pouvaient se rencontrer de manière libre. Il n'y avait pas le péché qui provoquait cette séparation entre l'homme et Dieu. L'homme et la femme, Adam et Ève, pouvaient vivre en pleine conformité avec la volonté de Dieu. Et vous le savez, le péché est venu tout gâcher. Mais qu'est-ce qui se passe depuis le début du livre de l'Exode ? Qu'est-ce qui se passe en particulier dans ce passage ? C'est comme si le tabernacle offrait un nouveau lieu où il va être possible de rencontrer Dieu comme il était possible dans le jardin. C'est comme si ce lieu allait être le lieu où Dieu régnait parfaitement, où la volonté de Dieu serait parfaitement appliquée à travers justement ces tablettes de la loi qui étaient stockées dans le coffre de l'Alliance. C'est comme si ces artisans avaient été associés à la recréation de ce lieu, de cet endroit où l'homme et Dieu pourraient vivre en communion. Et c'est pour cela que ce texte probablement se termine par l'évocation du sabbat, comme si ces artisans, eux aussi, après avoir recréé les conditions pour que l'homme et Dieu puissent être en communion à la manière de Dieu, à la fin de la création, devaient ne pas oublier de se reposer de leurs œuvres. Des artisans associés à la recréation d'un lieu et d'un endroit où l'homme et Dieu pourraient se rencontrer librement. C'est fantastique, hein ? C'est fantastique. Dieu veut être honoré, servi, comme il le dit. Betsaleel et ses collègues ont joué un rôle de premier plan pour fabriquer les objets qui permettaient de manifester la présence de Dieu. Ils ont joué un rôle de premier plan pour participer à cette œuvre de recréation voulue par Dieu, pour justement faire comprendre à son peuple qu'il était au bénéfice désormais de sa présence, de pouvoir venir à sa rencontre. Et forcément, la manière dont Dieu a conduit les choses au moment de l'instauration de cette adoration, de ce culte au Mont Sinaï, nous interroge pour nous aujourd'hui. Comment Dieu veut-il être servi aujourd'hui ? Alors la première application que nous pouvons tirer de ce passage, c'est ce qu'on a souligné dans la première partie du message, c'est que Dieu utilise tous les talents, toutes les capacités qu'il a données à sa créature pour son service. C'est vraiment intéressant hein, de s'arrêter encore une fois sur la manière dont les premiers prêtres en particulier, allaient manifester leur adoration de Dieu. C'est pas tant par l'enseignement, c'est pas tant par l'explication de la parole. Que devaient faire ces prêtres? Ils devaient manier des animaux sur un autel, plutôt des talents bouchés, et ils devaient en permanence démonter la tente et la remonter dans leur pénégration dans le désert. Plutôt des intermittents du spectacle qui sont en permanence en train de démonter le chapiteau. Dieu utilise des talents différents et variés tout au long de la révélation pour justement expliquer, faire connaître la manière dont on peut l'adorer. Et bien sûr, aujourd'hui encore, nos différents talents, nos différentes aptitudes peuvent être mis à son service. Alors c'est quoi l'idée derrière cela? Est-ce que c'est justement qu'on devrait trouver une manière à ce que chacun puisse s'exprimer le dimanche matin pour que son don puisse être bien reconnu dans la communauté comme un don spirituel? Est-ce qu'on devrait chercher à fabriquer à nouveau des objets culturels pour que les Betsaël, les Oholiab de notre communauté trouvent pleinement leur place? Pas vraiment. Je ne pense pas que ce soit dans cette direction qu'il faille aller. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Jésus est venu. Il a planté sa tente parmi nous. C'est ce que veut dire la Bible, hein, quand elle dit que la parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Là, le terme grec veut dire qu'il a planté sa tente. Il a tabernaclé, littéralement. Comme pour bien nous rappeler que c'est ce que Dieu avait fait dans l'Exode. C'est pourquoi on n'a plus besoin d'objets fabriqués des mains pour adorer Dieu. Nous le savons, nous sommes appelés à adorer en esprit et en vérité. Alors qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que nos talents peuvent être mis au service de Dieu, quels qu'ils soient? Qu'ils soient manuels, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient de l'organisation, qu'ils soient comptables, qu'ils soient pédagogiques. On le comprend bien, nos talents ne vont pas obligatoirement, systématiquement s'exprimer dans la célébration que nous avons comme ce matin. Pourtant, ils peuvent être mis au service de la communauté pour l'utilité commune, pour reprendre ce que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens. Tous les dons ne vont pas s'exprimer le dimanche matin quand nous sommes rassemblés, mais la bonne nouvelle, c'est que l'Église, ça n'est pas que le dimanche matin. C'est pour ça que tout à l'heure, vous aurez comme première slide de ce qui nous attend pour le reste de la semaine, non pas les annonces, mais la vie d'Église. Parce que l'Église continue après le dimanche matin. Et on espère vraiment, au niveau des responsables de l'Église, que chacun peut trouver la place pour l'expression de ses talents au service de la communauté, bien au-delà de ce moment qui n'est qu'une partie de la vie de l'Église, le rassemblement communautaire. C'est le reste qui fait la réalité de la vie entre nous. Et on peut aussi ajouter que ces talents ne sont pas toujours dirigés vers la communauté. Il y a aussi des aptitudes particulières, des dons chez les uns et les autres qui sont plutôt utilisés vers l'extérieur de la communauté, à travers leur activité professionnelle, à travers leur engagement social. Cela aussi, c'est un don mis au service de Dieu, c'est un don pour l'utilité commune. Mais là, il y a un petit point. C'est que pour qu'il soit pour l'utilité commune, il faut que moi, je le partage avec la communauté. Tous mes dons et mes services ne s'exprimeront pas forcément dans une des activités qu'on retrouve de l'Église, mais pour que mon don et mon service soient réellement une expression, j'ai envie de dire, de ce service pour Dieu, probablement il faut que je saisisse les occasions qui me sont données pour prier ou demander la prière des frères et sœurs, pour qu'on puisse s'encourager ensemble, pour que nous puissions voir tout ce que nous faisons et vivons comme un prolongement, finalement, de cette vie communautaire telle que Dieu nous le demande. Parce qu'aujourd'hui, notre culte n'est plus ce temps de célébration. C'est notre vie. C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas un culte hein, ce matin, mais là où s'exerce notre culte, c'est par le fait d'offrir notre vie, notre corps, en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est toute ma vie qui est ce culte désormais rendu à la gloire de Dieu. C'est pour ça que mes talents sont clairement liés, j'ai envie de dire, à ce service de Dieu. Je crois que c'est un domaine où on a besoin de progresser, cette idée que ce que je vis vers l'extérieur de la communauté, c'est pas que je dois rendre des comptes, mais c'est dans cette idée de se dire que c'est quelque chose qui nous concerne en tant que, voilà, cette idée d'être pour l'utilité commune, de service les uns vis-à-vis des autres, et qu'on a besoin de s'encourager, de prier les uns pour les autres. Il y a quelques temps, on faisait un petit temps à la fin de nos cultes où on se questionnait, il y avait une espèce d'interview justement pour se dire « Où est-ce que tu seras demain ? Et comment on peut prier pour toi ? C'est quoi tes défis ?» Et concrètement, ben voilà, c'est ce type de choses où je pense qu'il faut qu'on trouve des lieux pour pouvoir le faire, pour pouvoir le vivre concrètement. Deuxième application, et on la trouve à travers ce verset 11 du chapitre 31. Vraiment intéressant. Dieu recrée un environnement propice à sa présence à travers, justement, la fabrication d'objets, à travers des artisans à qui il a donné son esprit pour qu'ils aient une habileté spécifique. Mais le texte souligne au verset 11 que même s'ils ont été remplis de l'esprit, ce qu'ils devaient faire, c'était se conformer au plan Ikea que Dieu avait donné à Moïse sur la montagne. L'idée, c'est que, en étant remplis de l'esprit, ils n'étaient pas justement appelés à exprimer leur créativité libre de toute révélation. Le fait que Dieu les ait équipés de l'esprit avait pour but de les rendre capables de faire exactement ce que Dieu avait demandé de faire sur la montagne lorsqu'il s'est adressé à Moïse. Et en fait, ce verset, c'est pas juste un verset pris comme ça, là, au chapitre 31 du verset 11. Au verset 11, si vous prenez toute la fin du livre de l'Exode, on peut être surpris que Moïse passe 4 chapitres à dire « Voilà les instructions qui m'ont été données sur la montagne. » Et puis, à partir du chapitre 34, pendant 4 chapitres, « Voilà ce que les artisans ont fait. » C'est quoi l'objectif ? C'est de dire que les artisans ont fait exactement ce que Dieu avait demandé de faire. Et à plusieurs reprises, si vous continuez de lire le livre de l'Exode dans votre cul personnel, vous verrez que Moïse va insister que les artisans se sont conformés à tous les ordres qu'ils avaient reçus. Alors c'est quoi l'objectif de les remplir de l'esprit ? Pourquoi il y a cette précision qu'ils ont été remplis de l'esprit si c'était juste de suivre des consignes que Dieu a données ? Dans cet épisode, nous voyons les prémices du rôle de la parole et de l'action de l'esprit dans la vie des croyants. La parole apporte le contenu objectif. Dans l'Ancienne Alliance et dans notre passage, là, typiquement, les plans du tabernacle. Dans la Nouvelle, la révélation du salut, comment on peut s'approcher de Dieu. Le Saint-Esprit, que fait-il ? Lui, il nous rend capables, ou sensibles, capables de suivre les instructions données par Dieu sur la montagne pour les artisans d'Exode 31, sensibles spirituellement pour saisir le message du salut, pour nous rendre capables de repentance en entendant ce que Dieu a fait pour nous. Dieu veut être servi comme il le dit. C'est le rôle de la parole. Et Dieu nous rend capables de le servir comme il le dit. C'est le rôle de l'esprit dans notre vie. Et je crois que c'est vraiment un essentiel de comprendre cela pour que notre vie tout entière soit ce fameux culte raisonnable dont j'ai fait écho tout à l'heure dans l'Épître aux Romains. C'est vrai que nous sommes libres aujourd'hui et on peut faire preuve d'une certaine créativité et j'espère que nos rassemblements du dimanche n'en manquent pas. Mais cela nous interroge aussi sur cette créativité ou sur notre manière de faire. Nous ne sommes pas en train de faire les choses comme bon nous semble. Nous ne sommes pas autocratiques. Notre adoration doit découler de ce que Dieu dit dans sa parole. Elle va pouvoir s'exprimer avec une certaine créativité, mais en réponse à la manière dont Dieu dit qui il est, ce qu'il fait, la manière dont il se révèle à nous. Et c'est pour ça qu'on essaye dans nos cultes d'avoir ces temps à la fois où on lit la parole et où on chante en réponse à cette parole. Parce que c'est une manière d'essayer justement de vivre l'application du Saint-Esprit à nos vies, dans notre adoration. De même, dans nos activités. Peut-être que vous souffrez d'un trop fort taux d'activité dans votre agenda. Et j'en suis le premier à être concerné. Et notre premier réflexe face à ce trop fort taux d'activité dans son agenda, c'est quoi ? C'est de prendre son agenda et de commencer à barrer des activités en trop. Et c'est pas inutile. Mais de ce que nous lisons ce matin, c'est pas suffisant. L'objectif, c'est pas d'avoir moins d'activités. C'est d'avoir des activités qui répondent à la parole de Dieu dans notre vie. Qui nous amènent à vivre ce que Dieu nous demande de vivre. Alors, vous ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas parce qu'il n'est pas écrit dans la Bible que vous devez faire le ménage la semaine prochaine, que vous êtes dispensé de faire le ménage la semaine prochaine. On a des engagements les uns vis-à-vis des autres, on a d'autres paroles dans la Bible qui nous appellent à faire passer l'intérêt des autres avant le nôtre, qui nous appellent à nous aimer en retour. Et c'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre justement que si je suis confronté à faire une activité manuelle dans la Bible, dans l'Église et que ça me fait un peu râler, parce que justement cette semaine elle est bien chargée et que je me serais bien passé d'avoir ça à faire en plus, peut-être que j'ai besoin de prendre ce temps pour me rappeler pourquoi je le fais. Dans quelle mesure c'est une réponse, un culte raisonnable de ma vie personnelle ? Pour finir, peut-être que cette histoire des deux femmes à qui Jésus s'est un jour adressé est plus parlant que mes propres mots. D'un côté, Marthe, fatiguée par son service et qui finit par s'en prendre à Jésus en lui disant « T'as quand même pas beaucoup de compassion pour moi en n'envoyant pas ma sœur m'aider. » Et de l'autre, Marie, qui a commencé par s'asseoir au pied du maître pour entendre ce qu'il avait à lui dire. Et cette phrase qui résonne dans la bouche de Jésus: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marthe, Marie plutôt, a choisi la bonne part. Elle ne lui sera point ôtée. Marie a commencé par l'écoute du Seigneur, justement, avant de se lancer dans toutes ces activités auxquelles nous sommes confrontés. De la même manière, si la parole est première dans notre vie, alors nous pourrons vivre cette vie à la gloire de Dieu, cette vie à laquelle nous sommes appelés.